Ces derniers jours, les événements du livre d'Esther sont devenus une réalité pour nous en Ukraine. C'est comme si le décret avait été signé et que Haman avait l'autorisation de détruire une nation entière. La potence est prête, l'Ukraine n'a qu'à attendre. Donc c'est l'histoire de Esther, cette reine de Perse, et donc à ce moment-là il y avait un responsable, surtout le premier ministre de l'époque qui s'appelait Haman, qui avait décidé, en raison de sa position d'autorité, de détruire tous les juifs, de les exterminer de tout l'empire perse. Et donc c'est cette référence qui est faite ici. Pouvons-nous imaginer l'ambiance qui règne dans une société où, peu à peu, jour après jour, depuis des mois, les médias du monde entier disent que la guerre est inévitable, que beaucoup de sang sera versé. Ces dernières semaines, presque tous les missionnaires ont été sommés de quitter l'Ukraine. Les pays occidentaux ont évacué leurs ambassades et leurs citoyens. La circulation dans la capitale Kiev disparaît progressivement. Où sont partis les gens? Les oligarques, les hommes d'affaires et ceux qui peuvent se permettre s'en vont, préservant leur famille d'une guerre éventuelle. Devrions-nous en faire autant? Ma femme et moi avons décidé de rester dans notre ville, près de Kiev. Nous voulons rester pour servir les gens ici, avec le reste de l'église biblique Irpin, dont j'ai rejoint l'équipe pastorale en 2016. En prévision de la catastrophe à venir, nous avons acheté une réserve de nourriture, de médicaments et de carburant, afin que, si nécessaire, nous soyons en mesure d'aider ceux qui en ont besoin, plutôt que de les accabler. Nous sommes une famille de 6. Nous élevons 4 filles. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que ma fille de 16 ans se rend à l'université tous les jours. Son trajet aller dure 1h30 en transport en commun. Les médias nous avertissent que si la Russie procède à une invasion, les communications mobiles seront coupées et les transports en commun seront probablement complètement à l'arrêt. Heureusement, ces cours sont maintenant dispensés en ligne. Étant donné que la frontière avec la Biélorussie n'est qu'à 150 km de Kiev, l'une des options possibles d'une attaque ennemie consisterait à passer par la Biélorussie. Donc c'est écrit avant l'invasion qu'il y a eu cette semaine. Les médias locaux nous recommandent de préparer des bagages d'urgence. Alors j'ai dit à mes enfants, préparez nos sacs à dos, mettez aussi des choses pour tenir 3 jours. Avant, préparer des bagages comme ça, cela signifie que nous partons en vacances ou en voyage pour le plaisir. C'est pourquoi nos plus jeunes enfants, âgés de 6 ans et 8 ans, ont demandé « Papa, on va où ?» Au début, je ne savais pas quoi répondre. Puis, je leur ai dit que nous n'allions nulle part. Comment l'Église devrait-elle réagir lorsque la menace de guerre ne cesse de croître? Quand la société vit constamment dans la peur? Je suis convaincu que si l'Église n'est pas pertinente en temps de crise, alors elle ne le sera pas non plus en temps de paix. En tant que pays, nous sommes déjà passés par là en 2014. À cette époque, de nombreuses églises soutenaient activement ceux qui se rebellaient contre le régime corrompu et autoritaire de Viktor Yanukovych. Il y avait une tente de prière sur la place de l'Indépendance. Les chrétiens distribuaient des repas chauds et du thé. Les églises avaient ouvert leurs portes en guise de refuge pour les manifestants persécutés par les forces de sécurité. Au même moment, il y avait des églises qui soutenaient ouvertement le régime du dictateur et critiquaient les manifestants. D'autres églises essayaient d'ignorer ce qui était impossible de ne pas voir. Elles avaient gardé le silence sur cette situation et avaient vécu comme si rien n'était. Au bout du compte, les églises qui s'étaient tenues loin des problématiques sociales et celles qui avaient soutenu les dirigeants corrompus ont souffert d'une dégradation de leur réputation au sein de la population ukrainienne. Et à l'inverse, la société a eu confiance dans les églises qui étaient restées auprès des gens pendant les périodes d'épreuve. Nous croyons que l'Église est un lieu de lutte spirituelle. Dès que les tensions sont apparues, notre Église a annoncé une semaine de jeûne et de prière. Nous nous sommes rassemblés tous les soirs pour apporter nos supplications à Dieu. Pendant 3 jours consécutifs, les lumières avaient été éteintes dans la ville. Nous avons été obligés de nous rencontrer dans l'obscurité, dans une atmosphère encore plus solennelle que quand nous prions pour la paix. À la fin de la semaine, ces moments avaient produit en nous une force intérieure pour persévérer. Grâce aux prières communautaires, nous avons davantage de confiance et de paix. Nous croyons que Dieu est avec nous, et c'est la chose la plus importante. En cette période critique, notre Église, qui comptait environ 1000 personnes habituellement le dimanche, est également un lieu dans lequel nous servons. Nous avons récemment organisé plusieurs formations au premier secours. Les gens ont appris à poser un garrot, à arrêter les saignements, à appliquer des bandages, à dégager les voies respiratoires. Ces laïcs ne vont pas devenir médecins pour autant, mais cela leur a donné assez de confiance pour prendre soin de leurs voisins si nécessaire. En réalité, lorsque j'ai annoncé pour la première fois qu'une formation au premier secours aurait lieu, un frère m'a dit « Maintenant je sais pourquoi je dois rester en Ukraine ». Il avait prévu de partir et il savait qu'il n'était pas un soldat. Il n'était pas capable de prendre les armes ou de se battre. Mais maintenant il veut rester et aider les blessés et sauver des vies. Si nécessaire, les locaux de l'église peuvent être transformés en abri. Nous avons un bon sous-sol, nous sommes prêts à déployer un dispositif de chauffage pour le voisinage, à fournir un endroit où installer un hôpital militaire. Pour que cela devienne réalité, nous avons créé des équipes d'intervention. Si la loi martiale est déclarée, et ça a été le cas, ils sont équipés d'un approvisionnement stratégique de carburant, de nourriture, de matériel pour panser les plaies. Nous avons même accueilli des informations au sein de l'Église pour savoir qui sont les médecins, les mécaniciens, les plombiers et même ceux qui possèdent un puits en cas de pénurie d'eau. Nous avons décidé de rester, à la fois en famille et en tant qu'Église. Lorsque cela sera terminé, les citoyens de Kiev se souviendront de la façon dont les chrétiens ont répondu au moment où ils en avaient besoin. Si bien que l'Église ne se battra pas de la même manière que la nation. Nous croyons toujours que nous avons un rôle à jouer dans cette lutte. Nous abritons les faibles, nous servirons ceux qui souffrent et nous réparerons ceux qui sont brisés. En faisant cela, nous offrons l'espérance inébranlable du Christ et de son Évangile. Même si nous pouvons nous sentir impuissants devant une telle crise, nous pouvons prier comme Esther priait. L'Ukraine n'est pas le peuple de l'Alliance de Dieu, mais comme Israël, nous espérons que le Seigneur éliminera le danger, comme il l'a fait pour son ancien peuple. Et alors que nous restons, nous prions pour que l'Église en Ukraine sache fidèlement faire confiance au Seigneur et serve ses prochains. Vasil Oustri est pasteur à Irpin, donc. Il y a également des nouvelles d'une église dans une ville plus petite, qui ressemble un petit peu à celle de Figeac. Et ça, c'est un petit peu plus récent, ça date de jeudi. Chers amis, nous vous remercions sincèrement pour vos prières. Excusez-moi de n'avoir pas répondu à vos communications. Il y a des problèmes avec les liaisons téléphoniques, mais Internet marche. Ce matin, nous avons eu un bombardement de l'aérodrome d'Ouzine et de Bielotserva et des unités militaires. Cet après-midi, c'était plus calme. Maintenant, il y a des opérations militaires près de Kiev pour l'aéroport de Gostomel. La centrale atomique de Tchernobyl est contrôlée par les troupes russes. Nous nous préparons à recevoir des réfugiés. Aujourd'hui, toute la journée, on nous a appelés de différents endroits pour nous demander de l'aide et des logements. Nous avons été d'accord d'avoir une réunion de prière quotidienne à Tserkov pendant toute la durée des opérations militaires et aussi avec les frères d'être de service 24 heures sur 24 à la maison de prière pour donner une aide spirituelle aux gens. Aujourd'hui, il y a un groupe de gens qui passent la nuit à la maison de prière. Quelques personnes non-croyantes sont venues. Elles sont seules et elles ont peur de rester chez elles. Ce soir, nous avons reçu une alerte qu'il fallait se préparer cette nuit à des bombardements et de rechercher un abri. Nous n'avons pas d'abri. Mais il y a le sous-sol à la maison de prière. C'est pourquoi les gens viennent à la maison de prière. Beaucoup de familles essayent de fuir vers l'ouest de l'Ukraine ou en Pologne. Priez pour ceux qui, maintenant, partent de l'Ukraine afin que le Seigneur aussi les garde et les aide. Merci pour la prière. Que Dieu vous garde. Victor Marchuk. Alors on peut prier pour eux comme ils le demandent. Bon, ce qu'il est sage, c'est aussi de, comme on est au début du mois, de mettre quelques sous de côté parce que certainement ce sera bon d'aider nos frères et nos sœurs là-bas, sachant qu'eux-mêmes